France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Barbara Cassin, philosophe, philologue, membre de l'Académie française.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
J'ai eu besoin comme jamais d'écrire ce livre-ci. J'ai eu honte et j'ai voulu me justifier. Honte, l'idée ou plutôt l'obligation m'en est venue à Istanbul, devant un amphithéâtre plein de lycéens, d'étudiants, de Galatasaray, en mars 25, juste avant les troubles. Je leur présentais, dans le cadre d'un programme de l'Institut français, L'Odyssée au Louvre, un roman graphique. C'était mon dernier livre. Comment pouvais-je oser parler d'Homère à ces jeunes adultes, alors que Trump bouleverse le monde, Gaza Riviera, Dreaden Tariff, et que Poutine tue l'Ukraine? J'ai compris ce jour-là comment cela pouvait nous servir à tous, et pourquoi parler d'Homère pouvait constituer une bonne réponse, une réponse efficace à Trump et Poutine. Il y va de ce que je connais le mieux et qui m'intéresse le plus directement, le langage, les langues. Trump et Poutine parlent peut-être comme vous et moi, mais je constate qu'ils accordent une importance extrême au langage. Ils croient en sa puissance, en sa force performative, si bien qu'ils agissent sur lui et veulent en être les maîtres. En supprimant des mots, ils pensent qu'ils suppriment les choses que ces mots nomment. Alors, pourquoi Homère? Tout simplement parce que c'est le nom par excellence de la culture, un nom possible, évidemment pas le seul, et que c'est la culture qui est agressée à chaque fois. C'est elle qui est visée avec la haine de l'Europe, point commun trumpo-poutinien. C'est pourquoi je pense aussi que la culture est, doit être, résistance et antidote. Seul le langage peut résister au langage, remède contre poison, et tenir bon face aux armes. C'est précisément pourquoi j'ai le droit de me servir de toutes les armes que la culture a forgées pour nous, en particulier des analyses et des préconisations de la rhétorique gréco-latine. Elles nous aident à comprendre ce qui nous arrive quand on écoute Trump et Poutine. Pourquoi? Comment? Ils sont si forts parfois, et parfois si faibles. Ils ont bien raison d'avoir peur des intellectuels.
Bonjour Barbara Cassin.
Bonjour.
Vous venez de lire les premières lignes de votre nouveau livre, La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe, publié chez Flammarion. Drôle de chose quand même, hein, que de réunir dans une seule phrase Homère et Trump. C'est un drôle de compagnonnage, non?
Oui, mais c'est un poison et un contrepoison. Mmh. Voilà. Trump, c'est quand même le contraire de la culture. S'il avait un mot, si on le résumait d'un mot, je l'ai déjà dit moi une fois, c'est fuck. Bon, ça va pas très loin. Et Homère, ben...
Il y a plus de mots.
Il y a plus de mots. Et c'est plus... C'est beaucoup plus inventif.
Ouais.
Et c'est beaucoup plus étonnant.
Mais vous pensez vraiment que Homère peut être une réponse efficace à la guerre lancée par Trump et Poutine à l'Europe?
Mais je pense que la culture, je vois pas très bien qu'est-ce qui caractérise l'Europe et qu'est-ce qui fait qu'on la hait ou qu'il la haïsse à ce point-là. Alors, moi j'avais donné comme phrase de début, trois phrases pour Trump et trois phrases pour Poutine.
Oui, oui. Hein,
je vais les lire si vous voulez bien. L'Union européenne a été créée pour nous arnaquer. La Russie a en fait été dépouillée. Les attraper par la chatte,
c'est Trump.
Mmh. Que ça te plaise ou non, ma jolie faudra supporter. Ça, c'est Poutine, s'adressant à cette belle endormie qu'est l'Ukraine pour lui. Les Mexicains sont des violeurs, les Ukrainiens sont des nazis. Bon, c'est tout ça est tellement sommairement faux que je pense qu'il faut de la complexité pour résister. Et cette complexité, moi, je la trouve dans la culture qui est partageable.
Oui, mais justement, c'est la simplicité aussi de Trump, de son langage, qui fait qu'il a du succès aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est pas sa complexité du tout, au contraire.
Bien sûr.
A bien compris que c'était ça qu'il fallait
Et Poutine aussi. C'est pas la même manière de parler.
Il y a des nuances quand même.
Je ne vois pas moyen de redresser les choses, sinon en prenant un autre pied dans le langage que le leur.
Alors justement, c'est votre point commun aussi avec Trump et Poutine, Barbara Cassin, c'est que vous adorez les mots quand même, sauf qu'évidemment, vous ne les utilisez pas de la même manière. Et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours. On reparlera abondamment de votre livre dans la troisième partie de l'émission pour comprendre aujourd'hui pourquoi les mots ont eu autant et pourquoi ils ont toujours autant d'importance dans votre vie. Votre histoire, elle commence en 1947 à Boulogne-Billancourt, où vous êtes né. Et en 2020, vous aviez publié une autobiographie philosophique, « Le bonheur, sa dent douce à la mort ». C'était le titre. Qu'est-ce qui change selon vous quand on raconte sa vie, alors non pas juste comme une autobiographie, mais comme une expérience philosophique? Précisément.
Mais je me suis demandé pourquoi je pensais comme je pensais en philosophie. Et parce que je pense de manière très marginale. Je veux dire que, vous savez, par exemple, je n'ai jamais eu l'agrégation de philosophie, mais ce n'est pas pour rien.
Vous l'avez tenté plusieurs fois quand même.
Ah oui,
hein.
Mais 6-7 peut-être.
Très constante.
Oui, 6-7 fois, parce que c'était quand même plus commode. Et j'aurais été mieux payée. Bon.
Mais, pourquoi vous l'avez raté autant de fois?
Mais parce que je n'arrive pas à suivre le droit fil de ce que moi j'appelle la doxa. C'est-à-dire, mais j'adore la doxa par ailleurs, mais pas celle-là.
Mais il y a une doxa en philosophie ?
Il n'y a que ça. Pour faire une disserte de philo, il n'y a que ça. Bien sûr.
Mais ça paraît fou quand même, non ? Ça paraît totalement contre-intuitif par rapport à la discipline même qu'est la philosophie.
Appeler la vérité, la recherche de la vérité, comme la doxa par excellence de la philosophie. Et puis, en fin de compte, entre la vérité et la morale, on est quand même bien bloqué.
Donc vous êtes une marginale de la philo.
Oui, peut-être. Enfin, je crois. Je crois, il me semble. Et d'abord, je me suis intéressée à quelque chose qui a beaucoup embêté les vrais philosophes patentés, c'est-à-dire Platon et Aristote. La sophistique. La sophistique, c'est Gorgias, par exemple, qui dit au premier philosophe, celui qu'on nomme le père de la philosophie, depuis Platon jusqu'à Heidegger, Parménide. Parménide, le premier présocratique philosophe, qui dit « l'être est ». Et Gorgias lui dit, il écrit un traité du non-être pour répondre à son poème sur l'être ou sur la nature. Il écrit un traité du non-être et il lui dit, c'est toi qui le dis. L'être n'est pas, tu n'es pas là en train de dire d'être comme voudrait Heidegger, le là de l'être. C'est pas, mais non, tu es celui par qui l'être est parce que tu le dis. L'être est un effet de ton dire. Et ça change tout.
Vous écrivez justement que ce sont des phrases et des mots d'enfants qui nous font, et en l'occurrence, c'est ce que vous racontez dans votre propre autobiographie. Et alors, quel souvenir précisément vous gardez-vous de votre propre enfance, du point de vue des mots ou des phrases? Qu'est-ce que ça raconte de votre enfance?
Ma mère me disait un jour que parmi les premières choses que j'avais dites, elle essayait de fermer un tiroir, et je lui ai dit « t'as pas dit merde ». moi j'ai toujours adoré les mots et j'ai toujours trouvé qu'ils étaient d'une efficacité redoutable.
Ouais. Vous écrivez « Je me suis toujours senti aimé, j'étais la petite dernière, ma sœur a 15 ans de plus que moi et mon frère 7. La première composante de mon bonheur, c'est d'avoir su que j'incarnais le bonheur de mes parents à être encore en vie après la guerre. »
Oui, bon, ça c'est assez simple à comprendre.
Oui, c'est simple à comprendre, mais c'est étonnant quand même de le formuler comme ça.
Non, je crois pas. Je crois qu'on perçoit bien qui on est par rapport à ses parents ou qu'est-ce qu'on représente pour ses parents. Et moi, je représentais vraiment le fait qu'après la guerre, ces Juifs qui avaient fui, etc., eux, ces deux-là, ils étaient encore en vie et ils pouvaient faire un môme.
Ouais. Vous écrivez « Mon père m'a appris l'obsessionnalité, ma mère m'a appris l'hystérie ».
Oui.
C'est pas un peu réducteur, ça, pour votre mère
hein? Et pour mon père aussi.
Pour votre père aussi, oui, mais c'est tellement une image...
Ça veut dire que je suis une obsessionnelle hystérique, si ça existe, et que j'ai l'impression d'en avoir hérité. Mais j'ai hérité de beaucoup d'autres choses, grâce à eux. J'ai hérité de la peinture, j'ai hérité du fait qu'il fallait aimer les enfants. Ses enfants.
Ils peignaient tous les deux, vos parents ?
Oui, tous les deux. Sauf que ma mère a continué à peindre et mon père a été obligé de gagner un peu sa vie pour nourrir ses enfants, justement. Et donc, il a abandonné la peinture et il en voulait quand même à maman. Il en était très jaloux parce qu'elle continuait à peindre, mais en même temps, il fallait qu'il se console, et donc il pensait que lui peignait moins bien, donc voilà.
Ouais. Vous dites aussi dans cette autobiographie que le mensonge a sauvé votre famille.
Oui.
De quelle façon ?
Je dis que le mensonge est un art de combat, et je me souviendrai toujours de cette scène que ma mère me racontait, parce que ma mère peintre me racontait plein de choses, et notamment plein de choses de la guerre, pour voir mes yeux. Elle voulait me peindre, peindre mon regard. Donc il fallait qu'elle me fascine un peu. Donc elle me racontait ces choses-là. Et parmi les choses qu'elle me racontait, elle me racontait que quand ils étaient dans le Béarn, en zone plus ou moins libre, que mon père était commis épicier du coin, et que ma mère allait régulièrement à la messe. Ils sont juifs mais non pratiquants, ils n'ont jamais pratiqué quoi que ce soit, et moi non plus. Les Allemands sont venus et ont frappé à la porte. Et ils ont dit à ma mère, vous allez à la messe, ça va, mais votre mari il est juif. Et ma mère, qui était une femme extrêmement impressionnante de beauté, ma mère, je la vois, enfin j'imagine qu'elle s'est encadrée dans la porte et qu'elle leur a dit, moi, épouser un juif, jamais.
Donc c'est sorti comme ça spontanément.
C'est sorti spontanément.
Ouais. Et ça vous a sauvé.
Le mensonge comme art de combat.
C'est ça.
Ça a sauvé mon père qui s'est enfui par la fenêtre et ma mère qui est partie la nuit même avec les deux enfants qu'elle avait déjà.
Barbara Cassin, on va parler de votre pote Homer quand même, hein, parce que c'est votre grand ami qui a une place très importante dans votre vie. Comment vous l'avez rencontré en fait ? Comment on rencontre justement quelqu'un qui va vous accompagner tout au long de votre existence ?
Moi je dirais à l'école. Et moi, je crois que c'est très important, l'école. Donc moi, on m'a fait lire, j'ai fait du grec, parce que mon père aimait ça aussi, et qu'il m'aidait. Je pourrais raconter la manière dont il m'aidait. Mon père faisait du latin et du grec, et d'ailleurs, il faisait du latin et du grec pour tous les enfants qui étaient réfugiés autour de chez eux, dans le Béarn. Et moi, il m'avait donné envie de faire du grec. Et donc, j'en ai fait avec lui... Et à l'école, donc en classe de quatrième, en imprime à l'époque, on nous faisait apprendre par cœur de l'Homère. Et je récitais Homère dans le métro, et j'adorais ça, c'était beau.
Et vous en avez en tête toujours des vers d'Homère en grec ancien ?
Par exemple, le tout début de l'Odyssée, c'est deux vers magnifiques. C'est « Andra moi ennepe moussa, polutropon, hos malapola plankte, epei troyes hieron Polyétron et Persée. Andra, moi et népé. L'homme, pour moi, dis-le, mets-le en mots, muse. Celui qui est polytrope, celui qui a tant de tours dans son... Celui, l'homme aux mille tours, traduit Bérard, qui traduit très bien. L'homme, mets-le-moi en mots, muse. Celui aux mille tours, qui, malapola, tellement beaucoup, planctait, erra, comme les planctes, les rochers qu'on retrouve comme ça, les récifs errants, erra lorsque Troyes, Hieron, Tolhieron et Persée, lorsqu'il eut pillé la citadelle sacrée de Troie.
Et pourquoi Homer a été et continue d'être la grande passion de votre vie, en fait ? Qu'est-ce qui vous touche à ce point ?
Oh non, j'ai beaucoup de passion dans ma vie.
Hein. Enfin, quand même, lui, il a une place particulière, vous le dites.
Oui,
hein, quand
mais
même.
Aristote aussi. Enfin, ouais, bon, ouais, ouais. Je veux dire, non, mais j'adore Homer parce qu'il a construit le grec. Le grec, il a fabriqué les Grecs, les petits Grecs apprenaient à lire dans Homer. Homer, c'était leur béaba, quoi. Donc ça existe. Et il a construit la langue grecque. Mais on ne sait pas si Homère a existé, c'est d'autant mieux. Homère n'a peut-être pas existé, etc. Personne n'a jamais parlé le grec comme Homère, qui est un tas de mélanges de dialectes homériques. Et puis qui s'occupe vraiment de faire des longues et des brèves, de faire des dactyles et des spondées. Personne n'a jamais parlé comme ça.
Ouais.
Donc, mais ça se retient. Et Homère, donc, il a fabriqué le grec... La langue et la culture, en même temps que la culture. Et ce qui, moi, m'a beaucoup bouleversée, c'est quand j'ai vraiment travaillé Parménide, c'est-à-dire le premier philosophe, celui dont on dit que c'est le premier philosophe, et que j'ai trouvé que sa description de l'être, to éon, hein, au moment où il arrive à le nommer dans son poème, la description de l'être comme une sphère, bon, il le décrit comme une sphère, cette sphère, elle est immobile dans des liens puissants, et elle est Mpedon, les pieds solidement plantés dans le sol. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une sphère Mpedon, avec des attachés de partout et tout ça. Mais c'est juste que c'est la manière dont Homère, existant ou n'existant pas, décrit Ulysse attaché à son mât pour passer au large des sirènes et pas plonger dans la mer et aller se noyer avec tous les idiots de marins qui sont captifs des sirènes. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le mutos par excellence, hein, le mutos, c'est-à-dire le mythe, c'est-à-dire le contraire du logos, le contraire de la rationalité. Le mutos, c'est Homère. Le logos, c'est Parménide. Et ben voilà que ils sont conjoints en ce point, c'est-à-dire au point où ben, Ulysse passe au large des sirènes et où l'être se laisse décrire comme une sphère.
Et tout ça va nous emmener vers Trump et Poutine tout à l'heure. On verra aussi qu'il y a un lien direct. On va voir qu'il y a aussi d'autres grandes figures qui ont compté dans votre vie. Évidemment, il n'y a pas qu'Homère. Et puis on verra donc si les mots pourraient être en mesure de répondre à la guerre lancée par Trump et Poutine à la culture européenne. Barbara Gassin, vous êtes notre invitée au carré aujourd'hui.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. Ce monde net est mort, sans laisser de charnier.
La voix de René Char dans les rues de Lille sur la Sorgue lors d'un portrait diffusé dans Champs Libres en novembre 1967. Barbara Cassin, vous qui êtes notre invitée cet après-midi. À l'âge de 22 ans, vous avez assisté au séminaire du Thor, qui sont des rencontres philosophiques et poétiques qui étaient organisées donc dans les années 60-70 hein, dans le village du Thor, dans le Vaucluse, chez René Char. Qu'est-ce que ça représente justement chez vous, dans votre vie d'étudiante, le fait de participer aussi à ce rendez-vous?
C'est un tout avec 68. Hein. J'étais l'élève de Michel Deguy à Pasteur, en Hippocagne à Pasteur. Michel Deguy qui est un grand poète. Enfin, c'est un peu compliqué par rapport à Char. Je ne suis pas sûre qu'il adorait Char comme ça. Mais qui, à la fin de l'année, nous a lu un poème sur un poème de Char. Et au début, je ne l'avais pas compris, ce poème, quand il a lu. Je trouvais ça nunuche. Et puis, il s'est mis à l'expliquer, et c'est devenu magnifique, déplié. Et donc, cette année-là, moi, je suis partie vers l'eau marin, tourner un film. Je jouais un petit rôle de bohémienne. Et je suis partie à l'Île-sur-Sorgue pour essayer de trouver celui qui avait écrit un si beau poème. Je ne l'ai pas trouvé, et c'est l'année d'après, donc, qu'on m'a proposé, après 68, juste, de participer à ce séminaire.
Donc c'était évidemment pas des cours universitaires, hein. C'était
non, pas du tout.
Très informel. Oui. C'était des lectures, des échanges.
Oui, mais il faut comprendre que, justement, en 68, on avait fait à la maison, c'est-à-dire j'habitais, mes parents avaient un appartement qu'ils laissaient à disposition de leurs enfants, et c'était à mon tour d'en avoir. Et ça s'appelait la rue de l'Anneau, c'est rue de l'Anneau, dans le 5e. Et là, on avait fait une espèce de je sais pas, d'université alternative, avec Deguy, Beaufray, Fédier, et plein d'autres, des cinéastes aussi, des poètes. Et donc, il se passait des choses, et c'est à la suite de ça qu'on m'a invité au...
Dans le Vaucluse,
au séminaire du Thor. Oui,
qui avait déjà. C'est René Char qui vous invite ?
Non, c'était Fédier qui devait plus ou moins coiffer les choses. Il y avait aussi Dominique Fourcade, il y avait... Voilà.
Donc c'était le lieu hors institution. Hein.
Complètement.
C'était pensée libre, on discute, on échange, on s'affronte, on argumente, c'était ça ?
Le séminaire du Thor, c'était Heidegger chez Char. C'était ça. La rue de l'Anneau, c'était pensée libre, évidemment, ouais. Et toutes les tentatives étaient bienvenues. Mais le séminaire du Thor, c'était Heidegger, invité par René Char.
Donc philosophe allemand, hein, il faut le remettre dans son contexte. Philosophe allemand, hein.
Nazi notoire maintenant, un peu moins notoire à l'époque.
Ouais.
Char, grand résistant.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui se passait ?
Char connaissait le passé d'Heidegger ou pas ? Mais parce que c'est incroyable
personne
quand même.
Personne ne le connaissait comme ça, le passé de Heidegger. Sauf
parce qu'il a adhéré au parti nazi, hein. Ça c'était
oui,
clair en 1933.
Ça d'accord, mais entre adhérer au parti nazi, il a fait le discours de rectorat. C'est ça qui a été une clé de son nazisme. Mmh. Et justement, le discours de rectorat, c'est très compliqué, parce que, prenez Fédier, la manière dont il le traduit, c'est l'université allemande envers et contre tout elle-même. Bon, c'est-à-dire que c'est autre chose que du nazisme. C'est des fondamentaux de, je sais pas quoi, de la philosophie allemande. Nationnel, voilà, et du rapport entre philosophie et langue aussi, parce que Heidegger a toujours dit que ben, y avait deux langues, la grecque et l'allemande, et l'allemande encore plus grecque que la grecque, mmh. qui étaient des langues qui étaient enracinées dans une race et dans un peuple. C'est très compliqué d'entendre ça. Il disait ça.
Et vous, en tant que juive, comment vous vivez cette rencontre avec Heidegger ?
J'avais pas compris. Faut dire, j'étais petite. Vraiment. Et je trouvais que...
Vous aviez 22 ans,
voilà,
hein, c'est ça.
Oui, mais je n'avais pas compris ce qui se passait, à quoi moi je pouvais servir. C'était ça que je n'avais pas compris. C'est-à-dire que Heidegger était quand même le philosophe le plus lu et le plus extraordinaire pendant les années de mes études. Et longtemps après aussi. La phénoménologie heideggerienne, etc. Et... aussi le rapport à l'Antiquité, c'était lui qui avait redécouvert les présocratiques et qui les avait fait redécouvrir. Et c'était leur point de rencontre avec Char. Hein. Son point de rencontre avec Char, c'était quand même ça. C'était que tous les deux pouvaient lire Parménide,
ouais.
Et pas tout à fait comme d'habitude.
Quand vous dites « j'ai pas compris à quoi j'ai pu servir »,
oui.
Vous avez servi à quoi en fait ?
Ben, j'ai servi à, je pense, ou j'imagine maintenant... que, bon, moi, m'appelant Cassin, quand même, lié à René Cassin, prix Nobel, etc., de la paix, gaulliste, la première heure, et j'étais aussi avec Patrick Lévy, quand même un autre nom assez connotable. Bon, ben, on était là, absolument émerveillés, non pas adorateurs, en tout cas pas moi, mais émerveillés par la philosophie en acte, de Heidegger. Moi, mon antidote à ça, c'était René Char, quand même. Parce que la poésie en acte me paraissait bien plus enviable et bien plus étonnamment remarquable, bien plus profondément bouleversante que la philosophie en acte. Donc, on peut dire que, pour moi, les choses ont basculé en même temps qu'elles ont commencé.
Barbara Cassin, on va écouter un extrait d'un film sur la philosophe Hannah Arendt. C'est celui de Margaret von Trotta en 2012.
Oui.
Elle y parle de la pensée et du fait que les nazis ont renoncé à cette capacité.
Depuis Socrate et Platon, on a l'habitude de considérer que la pensée n'est autre chose que ce dialogue silencieux qui se poursuit entre moi et moi-même. En refusant de demeurer une personne, Eichmann a d'un seul coup renoncé à cette qualité spécifiquement et uniquement humaine qui consiste à pouvoir élaborer une pensée. Par conséquent, il n'était plus capable du moindre jugement moral. Cette incapacité de penser a engendré la possibilité chez des hommes de nature ordinaire et médiocre de commettre des actes cruels dans des proportions gigantesques, des actes incomparables à tout ce qu'on avait vu auparavant.
Barbara Cassin, Hannah Arendt, donc, hein, dans ce film, l'incapacité de penser, c'est ça aussi les germes de l'horreur ?
Sûrement, et elle est liée à l'incapacité de parler. Elle disait que Eichmann ne pouvait plus dire que des banalités. Hein. C'est la banalité du mal, c'est ça. C'est ne plus pouvoir dire et penser que des banalités.
Elle a été très importante, Hannah Arendt, aussi, dans votre parcours. Vous avez été la première à la traduire en France ?
Oui,
ouais.
On a été, justement avec Patrick Lévy, on a traduit à la fois La crise de la culture et Men in Dark Times, qu'on a traduit sous le titre ridicule je ne sais même plus lequel, enfin, bon. Mais je, il n'est pas homme de sombre temps, alors que c'était essentiel. On a dû traduire ça sous vie politique.
Ouais. Bon. Comme quoi, on n'a pas, on maîtrise pas tout non plus dans, non. dans les titres qu'on donne à ces ouvrages, c'est
non,
ça
là, j'ai rien pu faire contre Gallimard.
Après vos premières rencontres philosophiques, hein, on a vu donc ce bouillon finalement hein, dans ces années 60-70. Comment s'organise le parcours d'une philosophe en fait? Est-ce qu'on a des plans de carrière en tête? Parce que c'est pas un métier comme les autres quand même, philosophe. Comment ça se déploie en fait une pensée de philosophe et comment on pense à son avenir, à ce qu'on a envie de faire?
Oh,
est-ce qu'il y a beaucoup d'errance dans les rencontres, dans les textes qu'on lit?
Enfin, il y a des rencontres, en tout cas. Et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi tout le temps. La première rencontre, c'était De Guy, Michel De Guy, qui était notre prof donc de philo à Pasteur. Mmh. Mais ensuite, c'était justement Char et Heidegger. Et après, plus rien ne pouvait être pareil. Donc, moi, j'avais pas de plan de carrière, j'en ai jamais eu, et j'ai toujours été marginale, et c'est par hasard que les choses se sont bien passées. Mais, je veux dire, j'ai dû présenter, on l'a dit, 6 ou 7 fois l'agrégation sans jamais l'avoir. Il se trouve que la première fois, j'ai eu le CAPES. La première fois que je l'ai présenté, j'ai eu le CAPES, ce qui, quand même, ne garantissait rien, parce que à l'époque, on était envoyé au diable. J'avais déjà un enfant et je ne pouvais pas partir à avion à 6 heures de train, 3 changements, pour le lundi, le mardi, revenir le mercredi, etc. Donc j'ai pris des congés. Et là, c'est du coup beaucoup le hasard qui a joué, le hasard des rencontres. Il se trouve que j'ai trouvé un poste comme ça dans un hôpital de jour pour adolescents psychotiques. Mmh. Et ça a été passionnant pour moi.
L'hôpital Étienne Marcel.
Absolument.
Avec Françoise Dolto?
Non, Françoise Dolto était la divinité tutélaire.
La figure du commandeur.
Voilà.
Mais vous l'avez croisée à ce moment-là, non?
Oui, je l'ai croisée, mais c'est tout ce que je peux dire, c'est croisée.
Ouais. Ouais. Et en quoi cette expérience, justement, dans dans ce lieu, cet hôpital, là, avec ces adolescents, en quoi aussi ça a changé votre rapport au langage? Est-ce que ça a joué un rôle aussi?
Énorme. Énorme, parce que j'ai compris que les troubles, c'était des troubles du langage aussi. Et je pensais que ces enfants-là qui n'arrivaient pas à parler, ou qui crachotaient, ou qui étaient mutiques, il y avait quelque chose, un rapport à la langue maternelle. Maternelle, ça fonctionnait pas. Puis d'abord, ils n'avaient pas de mère non plus, en général. Et en gros, ils venaient plus ou moins de familles d'accueil. Et c'était terrible. Et donc, voilà, il se trouve que j'ai des souvenirs magnifiques de ce qu'on a pu faire. Par exemple, je me suis demandé comment je pouvais leur faire prendre conscience qu'ils avaient une langue plus maternelle qu'une autre. Le passage au comparatif, c'est toujours un truc extraordinaire par rapport au positif, négatif.
Et ça veut dire quoi, avoir une langue plus maternelle
qu'une autre ? Ça veut dire que quand je me suis mise avec eux à écrire du grec au tableau, et là, ils ont compris qu'ils ne comprenaient rien. Alors que quand j'écrivais du français, ils comprenaient. Et donc, ils ont compris qu'il y avait plusieurs langues et qu'ils en avaient une un peu plus maternelle que celle que j'écrivais au tableau. J'aurais pu écrire du chinois, c'était pareil, sauf que je ne sais pas le chinois. Donc voilà. Et donc, on a continué à travailler comme ça. Et par exemple, avec eux, j'ai lu un bout du Cratyl. Cratyl, c'est un endroit, c'est un dialogue de Platon, où Socrate, notamment, invente des étymologies complètement fantaisistes et très contradictoires. Par exemple, l'aletheia, la vérité, ça peut être quelque chose comme une course rapide, ou bien ça peut être quelque chose comme un arrêt sur image. Et il invente ça. Et à ce moment-là, on a compris. Ils ont compris. J'ai compris. Je leur ai fait comprendre, et on a tous compris ensemble, qu'une langue maternelle, on peut en jouer. C'est ça, son grand intérêt, grand avantage.
Et ça fonctionne chez ces adolescents psychotiques. Il y a quelque chose qui se passe.
Mais oui, il s'est passé quelque chose. Il y en a un qui a dit « Madame, j'ai compris ». Et je dis « Qu'est-ce que t'as compris ?»« J'ai compris l'étymologie de con, cierge ». Voilà. Bon, et c'était magnifique. On jouait, on s'est mis à jouer avec les mots. Du coup, ils se sont, si vous voulez, approprié le signifiant, on peut dire ça comme ça, en termes lacanoïdes.
Oui, bon. Parce que c'est quand même le propre de la psychanalyse, là, ce que vous nous décrivez.
Hein. Oui. Et on s'est mis à écrire, à faire un journal qu'on allait vendre rue Étienne Marcel aux putes du coin. Enfin bon, on a fait des choses très bien.
Barbara Cassin, alors là on va vraiment avancer beaucoup dans votre parcours. 2018, vous recevez la médaille d'or du CNRS et la même année, vous êtes élue à l'Académie française. Vous étiez la 9e femme à faire votre entrée sous la coupole. Marguerite Yourcenar avait été la première élue en 1980. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait de son discours le 22 janvier 1981. Voilà ce qu'elle disait.
Dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite, et de ma part quasi involontaire, qui m'est fait, je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil.
La voix de Marguerite Yourcenar dans la Tech au Carré sur France Inter, donc c'était en 1981. 11 femmes seulement ont été élues, dont vous, donc Barbara Cassin, à l'Académie française. Peut mieux faire quand même, non ?
Oh, écoutez, c'est pas... Elle a raison. Il y avait du piédestal et pas du fauteuil. Et puis, c'est pas comme ça que ça a été créé, l'Académie française. Ça a été créé pour des hommes qui portaient l'épée.
Par des hommes pour des hommes qui
portaient l'épée, qui avaient le droit de porter leur épée devant le roi. Et qui défendaient, avec leur épée, la langue française.
Oui, mais aujourd'hui, on porte un regard qui qualifie quand même de très sexiste cette démarche.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça change. On a élu des femmes, la preuve, j'en suis une. Et puis, il y en a d'autres. Oui,
mais peu quand même par rapport à tous ces hommes.
Mais on va pas faire une parité immédiate, c'est pas le problème. On essaye de. Vous savez, déjà, moi, je trouve que l'Académie française, dont on dit à quel point elle est misogyne, à quel point elle est, y a quand même une chose extraordinaire, c'est que il y a un nombre d'académiciens. Je crois plus nombreux qui ont comme langue maternelle une autre langue que le français. Mais c'est extraordinaire. Il y a la langue chinoise, il y a l'arabe, il y a le russe, il y a l'anglais évidemment. Enfin bon, un tas de langues maternelles non françaises. Je trouve ça déjà une espèce d'ouverture pour moi formidable. C'est plus d'une langue. La langue française n'existe que parce qu'il y en a plus d'une. Et qu'elle est capable de les gérer. Bon, les sacs, s'il y en a deux, bon, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais en tout cas, elle en gère à peu près deux, et pas bien, d'accord, mais ça vient.
Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'on va écouter le thème de Star Wars de John Williams. Là aussi, il y a un lien entre l'Académie française et Star Wars. C'est votre épée, votre sabre. Et moi, je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Je suis allé voir d'ailleurs sur les photos. Ouais. Et vous êtes fait faire un sabre de Star Wars, en fait.
Moi, j'ai voulu faire une épée. Vous voyez bien, c'est ridicule, une épée pour une femme. Une épée pour tuer qui ? Quelque chose de non létal, évidemment. Et plutôt pour mes petits-enfants. C'était très bien. Donc, j'ai pris une épée de cuir percée de trous et avec des fibres optiques à l'intérieur.
Oui, c'est une épée lumineuse, quoi. C'est vraiment le sabre de Star Wars.
Avec écrit dessus plus d'une langue qui change de couleur. Et puis par ailleurs, la garde, c'est un petit ordinateur où je peux avoir au fond tous les textes du monde et tous ceux qui m'intéressent et tous ceux que je ne connais pas. Et puis, le pommeau. Ça compte beaucoup pour moi. Le pommeau, c'est la reproduction, parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'original. Ça ne m'est même pas venu à l'idée. Mais c'est une espèce de petite figurine qui existe, qui a été retrouvée dans une tombe en Turquie, à l'endroit où on imagine qu'il y avait Troie. Donc une tombe barbare, non grecque. Parce que la guerre de Troie, c'est quand même... on a commencé à lire l'Odyssée, vous avez vu, c'est ailleurs. Donc, cette figurine est une femme qui a une coiffe d'or, des boucles d'oreilles en or, des bouts de seins en or et des bottes d'or. Oui. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir non seulement Star Wars, mais les barbares avec moi.
Oui, Barbara.
Oui.
Les barbares et Barbara Cassin.
Avec... Barbara, ça veut dire blablabla.
Oui.
Donc ça va.
C'est bien pour le langage.
Oui,
ça vous colle à la peau.
Oui.
C'est épatant. Est-ce qu'avec votre sabre Star Wars, vous pourriez justement déclarer la guerre à Trump et Poutine ? Est-ce que ça pourrait être un outil pour vous, pour justement essayer de défendre l'Europe ? Parce que c'est ce que vous dites dans cet ouvrage. Il y a une guerre de culture et une guerre contre l'Europe de la part des deux protagonistes.
Absolument. Oui, oui, très violente.
Et votre sabre, il pourrait vous servir ou pas? Il a des pouvoirs magiques ou les mots ont plus de pouvoir que le sabre?
Le sabre n'est jamais qu'une allégorie des mots à la fois barbares, contemporains, avec les fibres optiques, et plus dangereux qu'une vraie épée.
Ouais.
C'est ça que je pense.
Oui. Vraiment?
J'aimerais mieux que ça soit plus dangereux qu'une vraie épée, en tout cas.
Trump, comme Poutine, cherche à agir sur le réel en supprimant ou en détournant des mots.
Hein. Oui.
En quoi le fait d'interdire certains termes, ou d'en remplacer d'autres d'ailleurs, constitue déjà une forme de violence politique, Barbara Gassin?
Ça constitue déjà une forme d'obéissance absolue au langage. C'est-à-dire qu'ils imaginent que quand ils suppriment des mots, il y a peut-être une chance que ça supprime des choses. Et bon, si on prend Poutine qui le fait moins souvent, mais enfin, il y a au moins deux grands exemples. Hein. Il n'y a pas de guerre en Ukraine, vous êtes bien d'accord.
Hein. C'est ça, absolument. Hein, il n'a jamais employé le mot.
Jamais. Ouais. Il y a une opération militaire spéciale, mais ça n'a rien à voir. Hein. Si vous dites guerre, vous allez en tôle. Bon. Et Navalny, il n'a jamais existé. C'était cet homme, ce, etc. Il a existé le jour de sa mort où il a dit oui, Navalny est mort, c'est des choses qui arrivent. Bon. Mmh. Voilà. Mais il n'a jamais nommé Navalny. Donc là, on voit que supprimer des mots, c'est faire croire, enfin, c'est supprimer, croire qu'on peut supprimer des choses, donc faire une confiance folle à la performativité du langage.
Alors, Trump l'a fait tout de suite en arrivant à l'occasion de sa deuxième élection. Hein, ça a été de faire des listes d'interdiction de mots, alors liées à l'écologie, aux minorités.
Voilà.
Et cette suppression, elle est inquiétante?
Mais non, elle est terrifiante. Elle n'est pas seulement inquiétante, elle est terrifiante parce qu'elle est liée à un vrai pouvoir, qui est le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que si vous utilisez ces mots pour demander, vous êtes une firme qui utilise ces mots pour votre publicité, ou vous êtes un chercheur qui utilise ces mots pour demander une subvention, vous ne l'aurez pas.
Mmh.
Bon.
Ah oui.
Et il faut voir quel mot. C'est-à-dire, c'est des choses tellement... Diversité, équité, inclusion, identité, femme. Mmh. Ils ont été obligés de l'enlever à
changement
la fin.
Changement
climatique.
Parce que
c'était différent. Changement climatique, absolument. Égalité des chances. Non. Appartenir. Accessible, accroître la diversité. Là,
Et ça, c'est encore plus inquiétant qu'une simple propagande, en fait, le fait de tuer des mots comme ça.
Je trouve que oui, c'est très inquiétant parce que ça, on est malgré tout lié au rapport mots-choses, et que si vous interdisez tous ces mots, eh bien, c'est vrai que les choses risqueraient d'être en péril. Et c'est pour ça qu'ils ont dû quand même rajouter le mot « femme » parce que c'était très embêtant de le supprimer.
Mmh. Alors Trump, lui, vous l'analysez aussi dans votre livre, il privilégie les phrases courtes, qui sont compréhensibles par les enfants très jeunes. Mmh. Et il enchaîne les phrases erratiques. Alors ça aussi, c'est son style, quoi.
Oui.
Mais il l'a érigé quasiment au statut d'art, quand même, ça.
Oui, oui.
Hein, il fait ça extrêmement bien.
Extrêmement bien.
Il faut quand même y aller, quoi, pour faire ce qu'il fait.
Absolument. Mais pour faire tout ce qu'il fait. Pour signer comme il signe.
Oui.
Hein, aussi. Et puis pour faire ses
décrets.
Non, mais
pour arriver comme ça à parler avec ses phrases totalement erratiques, effectivement.
Mais c'est... Il parle, paraît-il, avec le même nombre de mots et la même syntaxe qu'un enfant de 14 ans. Je veux le croire.
9 ans, je crois même. Hein.
Oui, quelquefois on dit 9.
Oui, quelquefois on dit 9.
Oui, ouais. Enfin bon, c'est des 9 avancés ou des 14, des 14 américains retardés. Quoi.
Ouais.
Des 14 trumpés déjà.
Et ça, quand on analyse ça, ça fonctionne de la même manière chez Poutine d'ailleurs?
Non, pas du tout.
Le langage est plus élaboré?
Oui, Poutine, il est un vrai sociolinguiste. Il s'adresse à chaque partie de sa population avec des mots presque codes pour dire « je suis des vôtres » et « vous êtes donc comme moi, vous pensez comme moi ».
Oui.
Et les deux, le ressort des deux, c'est « je suis comme vous, vous êtes comme moi ». Bon, ça c'est le ressort des Américains trumpés.
Oui.
Et chez Poutine, c'est couche par couche. Et l'une des couches, moi, qui m'a beaucoup instruite et surprise, parce que je n'étais pas au courant, c'est celle du « mat ». Le mat, c'est le langage des bas-fonds. Et Poutine utilise dans ses discours, et là je crois qu'il est encore en train d'en faire un.
Discours, absolument.
J'aimerais bien savoir dedans quels sont les mots de mat qu'il y a.
Ouais.
Mais on comprend du coup Wagner, on comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est le langage des bas-fonds qui est là pour dire, moi aussi, je suis votre patron mafieux.
Mmh. Barbara Cassin, il y a un enjeu, vous le dites, c'est une guerre, la guerre des mots justement. Il y a un enjeu majeur aussi, c'est d'arriver à mobiliser une large part de la population autour de cette guerre des mots, de ne pas rester simplement dans le giron des intellectuels.
Oui.
Comment on fait ça ?
Moi, je ne sais pas, on écrit comme on peut, et on est très aidé, on a un bon éditeur, on se fait le...
Ça, c'est un effort que vous avez fait dans ce livre,
ah, oui.
Hein, justement, oui. De pouvoir le rendre très lisible par oui, beaucoup de gens.
Oui, mais j'ai été très aidée par Sandrine Trainer, qui a été tout le temps présente, qui presque chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, c'était là, enfin bon, c'était formidable. Et puis, très aidée par la diffusion de Flammarion.
En tout cas, vous en appelez à la culture comme résistance aujourd'hui,
oui,
hein,
oui.
C'est ça
oui.
Et au pouvoir des mots
oui,
pour
vraiment.
Lutter contre ces forces.
Je ne sais pas comment il faudrait faire autrement.
Bon, ben, espérons que ça fonctionne en tout cas.
Espérons, ouais.
Merci beaucoup Barbara Cassin. Ça s'appelle La guerre des mots, Trump, Poutine et l'Europe. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'être
venu
nous en parler aujourd'hui.